CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Madame, monsieur, bonjour, le mag du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui à la quatrième édition de Passion baroque à Montauban, la biennale des musiques baroques, du festival des musiques baroques dirigé par Jean-Marc Andrieux, que nous avons le plaisir de recevoir ici. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Rémi.
Merci d'être là pour qu'on égrène le programme. Alors on est en plein milieu de ce festival en fait. Déjà,
oui.
Ça a déjà commencé au mois de février.
Oui, on a commencé le mois dernier, fait par un grand concert au Temple des Carmes là, et puis là ça repart.
Voilà, alors il y a une date à retenir, là c'est ce soir même à Montauban, à la Petite Comédie, une lecture musicale.
Oui. À 19h, c'est tout à l'heure, finalement.
Oui. C'est pour ça que je le dis là, de suite en ouverture, avant que nous ayons notre conversation, une lecture musicale sur...
Oui, alors on va lire des extraits d'un livre d'un spécialiste de la musique baroque qui était Philippe Bossan, qui est décédé en 2016. C'est un hommage que je souhaite lui rendre. Il a fondé le Centre Musique Baroque de Versailles, il a été académicien, c'est un grand personnage. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Renaissance, Passage de la Renaissance au Baroque, où il explique le glissement artistique de la musique en lien avec les peintres aussi de l'époque, Véronèse, Le Titien, tout ça, c'est extraordinaire. On va projeter le tableau de Véronèse, Les Noces de Cana. En même temps, Maurice Petit va lire des extraits de ce livre et on va ponctuer la lecture par de la musique de cette époque.
Voilà, tout ça, donc, c'est à la Petite Comédie à Montauban ce soir, juste à côté du théâtre. Et puis, on va regarder ensemble le reste de la programmation de Passion baroque à Montauban, juste après Talisco. Talisco, de passage à Montauban, au Rio Grande, samedi soir.
Far away, another day comes. If there's no face through all the way we see life, if there's no face through all the way we see life, let's
Wish, Talisco sur CFM Radio, Talisco en concert donc samedi soir au Rio Grande avec le régional de l'étape Rémi Parson, et puis ils sont pas très loin non plus, hein, les Daniels Child, ils seront également sur scène. On n'est pas tout à fait là dans la musique baroque, vous l'aurez compris, mais enfin je pense que s'il y a quelque chose qui découle de la musique baroque, la pop finalement, j'y trouve comme une cousinade, non ?
Mais le jazz, déjà le jazz, parce qu'il y a des points communs avec le chiffrage des accords, par exemple le système de la basse continue, ça marche comme une grille de jazz finalement. Après il y a aussi le swing, quand on joue ternaire, c'est l'inégalité des croches de la musique baroque, et puis il y a aussi l'improvisation qu'on utilise. Oui, il y a des points communs. Et puis après,
le côté couplet-refrain, il n'y a pas ça dans la musique baroque?
Si, bien sûr, c'est la forme rondo, on dit, non? Voilà, si, c'est ça.
Non, mais c'est finalement le couplet-refrain de la chanson pop.
Bien sûr, c'est une forme qui existe depuis le 16e, même 15e siècle.
Hein. Ah oui?
Oui.
C'est né là, cette idée de couplet-refrain, quoi.
Tout à fait, oui.
Hein, parce qu'avant, il y avait plutôt la chanson...
À l'époque médiévale, il y avait des formes encore plus complexes que ça. Des virelets, ces trucs-là. Alors là, c'est des formes où on se perd. Voilà.
Il y a un peu de mathématiques peut-être aussi dans tout ça, non?
Non, il n'y en a pas qu'un peu, il y en a beaucoup.
Ouais.
Ouais,
ouais.
Il y en a beaucoup. À cette époque, il y a beaucoup d'influence des mathématiques.
Dans la musique baroque aussi?
La musique baroque un peu moins, ça se calme. On est un peu plus attentif à l'essence de la composition, mais à l'effet que ça va produire sur le public.
Donc les sonorités,
les formules mélodiques, les formules rythmiques, ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art du discours. La rhétorique, c'est ce qu'on apprenait avant quand on était, les anciens comprenons. C'est l'art de convaincre son auditoire par son discours. Eh bien, la musique baroque, elle est influencée par ces principes-là de la rhétorique.
Ah bon.
Et voilà.
Et donc voilà. Et donc quatrième festival Passion Baroque à Montauban.
Oui. Ouais, tous les deux ans. Donc on organise les années impaires. Donc 17, ça y est, on y est.
Et dans un festival, il y a des invités. Souvent, vous invitez d'autres musiciens baroques, d'autres orchestres.
Quand les opportunités se présentent, quand on a assez de moyens, ça dépend des fois. Et puis on fait des échanges. Par exemple, on a invité la dernière édition, Jean-Marc Heim, qui dirige un ensemble à Marseille, et en retour, il nous a invités à aller jouer là-bas. On a fait des échanges comme ça.
C'est un petit monde ou
C'est un grand village.
C'est
un grand village, oui. C'est les Parisiens qui sont difficiles parce qu'ils occupent beaucoup le terrain. Et quand on est en province, en France, c'est difficile d'exister.
Oui, enfin, j'entends souvent parler de l'Orchestre des Passions de Jean-Marc Andrieux et pour ses pérégrinations à travers le monde. J'en entends parler sur France Musique, j'en entends parler sur France Culture,
c'est vrai.
J'en entends parler sur d'autres radios. Et vous faites rayonner la musique baroque partout sur la planète.
En effet, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais dans les grands festivals en France, c'est difficile d'arriver à s'imposer face aux formations parisiennes. On y est arrivé quand même l'été dernier, on a joué au festival de Radio France à Montpellier quand même, c'est un des très très grands festivals, et là on a évidemment les critiques ont beaucoup apprécié le concert qu'on a donné là. Voilà.
Qu'est-ce qui fait justement qu'on apprécie un orchestre et sa façon de... un orchestre, son chef d'orchestre, sa façon de jouer, parce que là il n'y a rien à inventer.
Tout à inventer. Ouais.
Ah bon.
C'est-à-dire que sur les partitions, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Et en fait, le chef doit reconstituer une interprétation. C'est-à-dire, on se demande comment, à l'époque, on se demande comment il devait le jouer. Donc, on cherche des indices sur les partitions, on lit les méthodes de l'époque, on regarde les tableaux pour voir comment ils tenaient les instruments. Enfin, on essaye de trouver des indices pour reconstituer la musique comme elle devait sonner à l'époque. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter ces règles-là, mais sans que ça, sans que ça devienne archéologique ou ennuyeux, quoi. Il faut aussi que ce soit vivant. Et il faut s'entourer de musiciens très très forts techniquement, et puis après communiquer de l'énergie, et à la fois l'énergie et la dynamique de ce discours musical, mais en essayant au maximum de respecter les principes de l'époque.
Voilà, il y a quand même des partitions avec les do, ré, mi, fa, sol, la, si,
ah,
do, la clé de sol, etc. Tout ça,
oui,
ça.
Ah, oui.
Les petits
oui.
indices qui pour dire que là c'est plus fort,
et
là
non,
c'est moins fort. Ah non,
il
n'y a pas ça.
Et voilà, les nuances sont écrites sur les partitions. Il commence à y avoir des nuances à l'époque baroque, mais pas tant que ça. Il faut les interpréter, il faut les inventer, quoi. Et c'est plutôt à la fin du XVIIIe siècle, au moment où on commence à créer les premiers orchestres symphoniques, que la notion de nuance écrite sur les partitions va vraiment apparaître précisément. Mais avant, non, justement, il faut...
Et donc là, c'est quoi ? on se raccroche à quoi ?
Alors, on se raccroche à deux choses.
Un texte d'un poète d'à côté ou...
On se raccroche à deux choses. Justement, au texte, c'est-à-dire, s'il y a évidemment un chanteur qui chante ce texte en même temps, on essaye de faire correspondre la dynamique des phrases musicales au langage parlé, aux accentuations du texte parlé. Et la deuxième chose qui
veut dire qu'il faut savoir dans quelle langue et quel est l'accent du mec aussi quand même.
Exactement. Ouais, ça c'est important. Ouais, le latin, hein, comment on prononçait le latin à l'époque, tout ça. Bon, et puis la deuxième chose c'est la danse, c'est la musique de danse. C'est quand même très souvent basé sur les pas de danse. Il faut connaître un peu la dynamique de la musique de danse qui va influencer toutes les compositions, même religieuses.
D'accord. Donc vous dansez le menuet, ce genre de choses.
il faut vraiment que j'ai bien bu pour danser le menuet, et j'espère que vous serez pas là pour le voir.
Un petit peu de publicité, puis on revient en conversation avec Jean-Marc Andrieux à propos de cette quatrième édition de Passion Baroque à Montauban. On va regarder le programme.
CFM à Moissac, 90.7.
Je viens de voir les voisins, ils sont comblés.
Comment ça, comblés?
Eh bien, avec une simple pièce d'un euro, ils ont récupéré une pièce à vivre en isolant leur comble.
Une pièce d'un euro pour une nouvelle pièce à vivre? C'est cadeau!
Grâce au programme Solidarité énergétique pour la rénovation, une pièce de 1 euro vous suffira pour isoler vos combles. Rien d'autre à payer. 33 cm d'épaisseur de laine de verre, iso-vert, sans aucune limite de surface et jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Tarn-et-Garonne Isolation, une entreprise familiale certifiée RGE Calibat, ZA de la Mouscane à Montèche.
Dimanche 19 mars, portes ouvertes du printemps au Terme de Cransac. Cure thermale pour les cervicales ou le mal de dos, remise en forme dans le spa thermal. Le dimanche 19 mars, profitez gratuitement des visites guidées, du buffet et de la tombola où vous pourrez tenter de gagner une mini-cure d'une semaine pour vous ressourcer comme les 5000 curistes des Termes de Cransac. Testez le pass 3 soins pour seulement 20 euros. Le dimanche 19 mars, vous êtes au Terme de Cransac. Infos et réservations 05 65 63 09 83.
Du 8 au 11 mars, la ville de Montauban vous invite à célébrer les femmes à l'occasion de l'édition 2017 des Journées Olympe de Gouges. Théâtre, rencontres littéraires, lectures et visites mettront à l'honneur des femmes célèbres ou anonymes ayant œuvré pour la condition féminine. Rendez-vous le 8 mars à 18h au Théâtre Olympe de Gouges pour le lancement du prix Olympe de Gouges et le spectacle Les filles aux mains jaunes. Entièrement gratuit. Programme complet sur montauban.com.
CFM,
l'esprit rock, rock,
rock.
CFM,
de Moissac à Rodez.
De Moissac à Rodez.
L'esprit rock. CFM en direct de la place nationale 101.2.
L'esprit rock.
Oui, pendant les pubs avec Jean-Marc Andrieux, on était en train de regarder un extrait du livret du dernier disque de l'Orchestre Baroque de Montauban, le Magnificat à la Chapelle Royale, que vous étiez venu nous présenter il y a un an ou deux, hein, quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, l'année dernière, oui.
Ouais. Mm-hmm. Et donc effectivement, il y a la reproduction de In Exitu Israël,
oui.
Mare Vidit, un détail du manuscrit sur lequel vous avez travaillé pendant 2 ans.
Et oui, c'est des manuscrits que je suis allé numériser à la Bibliothèque Nationale à Paris, de 3 grands motets. Les grands motets, c'était des pièces religieuses qui étaient jouées à la messe à la chapelle royale de Versailles tous les jours devant le roi. Et donc celui-ci date de 1749, non, je crois.
Alors
c'est Louis XV qui l'a entendu et ça n'a jamais été rejoué depuis. Et donc voilà, effectivement, on regardait cette partition,
1749,
ce manuscrit. Ce manuscrit où effectivement tout n'est pas écrit et il faut après à l'ordinateur reconstituer toutes les notes, quoi, voilà.
Donc, in exitu Israël, c'est la fuite des Hébreux.
La fuite en Égypte, oui, ouais, c'est quand les Hébreux sont partis et ont traversé la mer Rouge, hein, ce passage avec Moïse qui les a guidés. Et donc là, c'est de la musique, c'est de la musique de film, pratiquement, parce qu'il... Blanchard, l'auteur de ces motets-là, va utiliser des procédés de la musique d'opéra qu'il va appliquer à la musique d'église.
On l'écoute.
Ah oui, c'était la marche des Hébreux.
Passage. Ah oui, après, ça enchaîne sur.
Et après, il y a un enchaînement, mais bon, ça risque d'être un peu long. Non, je me permets d'interrompre l'audition à un moment où on peut couper, parce que sinon, le morceau qui suit après va être beaucoup plus long, pardon. Hein. Et donc, c'est la marche des Hébreux qui est le premier chœur du motet In Exitu Israël de ce fameux Antoine Esprit Blanchard qu'on a donné en concert au Festival de Radio France à Montpellier. Ça a été enregistré en direct par France Musique. Et puis après, on a sorti le CD en live.
Voilà, qu'on peut trouver encore, hein, toujours.
Bien sûr. On peut se le procurer. Bien sûr, bien sûr. Un très beau CD. Hein. Mais on a eu 5 diapasons, le choix de France Musique, et on est plein de récompenses.
Mais il est très beau, je l'ai là encore une fois dans les mains.
C'est
avec
un bel objet.
Avec un joli livret. Ça doit même être plaisant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, 2 ans de travail. Enfin,
oui.
Ça doit être plaisant d'avoir ce petit résultat.
Bien sûr. Et on y a passé beaucoup de temps, on a beaucoup travaillé dessus et c'est un objet de fierté, on va dire. Quand même, on est heureux d'accoucher d'un joli bébé comme ça.
Alors, on est en plein festival Passion Baroque à Montauban. On vous l'a dit au début, il y a un événement là, aujourd'hui, mercredi 8 mars, à la Petite Comédie, à 19h, une lecture musicale, passage de la Renaissance au Baroque, de Philippe Bossan, avec Maurice Petit pour les textes, évidemment, oui. Et Jean-Marc Andrieux et Yasuko Ouyama Bouvard.
Très bien, Yasuko Bouvard, on va dire. Voilà, ouais, claveciniste.
Vous
c'est
êtes
tout
à la
l'heure, là. Hein. Oui, je joue de la flûte, là. Oui, on va jouer de la musique fin 16e siècle et début 17e.
Voilà. Clavecin, flûte, et la voix de Maurice. La
flûte, et c'est ça, et Maurice Petit qui
est la voix de Maurice Petit.
Oui, c'est cela. Voilà, sur donc ce tableau, Les Noces de Cana de Véronèse.
Si vous nous écoutez jeudi un petit peu après midi, qu'il est bientôt midi 30 là, c'était hier, il y avait un monde fou à la Petite Comédie et c'était super. Mais c'est pas fini, Passion Baroque, du coup, il en reste encore.
Et oui, il y a un concert vendredi. Vendredi à l'espace des Augustins, vendredi prochain, c'est-à-dire après-demain.
Corelli, Frescobaldi, Uccellini, Bertali, Rognoni... Enrico Gatti.
Alors, c'est quel pays, ça?
Bah, c'est l'Italie, forcément.
Et oui, bon. Oui. Bon, c'est
ça veut dire que la musique baroque, c'est forcément italien ou?
Pas forcément, mais ça, c'est né en Italie. Mm. C'est parti de l'Italie. Enfin, justement, vers les années 1580, 1600, à ce moment-là, les compositeurs italiens vont révolutionner l'écriture musicale et créer cette nouvelle façon de composer. Et qui va enflammer toute l'Europe après et qui va devenir ce qu'on appelle l'époque baroque. Et donc, ce que je souhaitais, c'est inviter un grand spécialiste du violon, qui est Enrico Gatti, un ami violoniste, une des grandes stars du violon baroque, connu dans, enfin, quand je dis l'Europe, non, il joue dans le monde entier. Et il va venir là nous faire découvrir l'art du violon baroque italien, vraiment dans ce qu'il a de plus raffiné et de plus virtuose.
Vendredi soir, 20h30, à l'espace des Augustins, avec Guido Morini au clavecin.
Au clavecin, son comparse depuis très longtemps. Ils jouent depuis très longtemps ensemble et ce sera un concert magnifique.
Un claveciniste.
Claveciniste.
Un claveciniste, il joue d'un clavecin contemporain ou un clavecin d'époque
Ah non, les clavecins d'époque, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y en a très peu. Dans les musées, ils sont conservés dans les musées, on peut les jouer, mais ceux d'époque, ils sont vraiment fragiles et c'est plutôt des copies qu'on joue. On copie il y a des facteurs de clavecin qui vont mesurer et voir comment il était fabriqué et qui refont le même. Parce qu'à l'époque, en fait, ils jouaient avec des clavecins neufs. Ils ne jouaient pas avec des vieux clavecins. Ouais, ouais. Alors du coup, même les instruments. Quoi,
n'importe quel instrument aujourd'hui, c'est plutôt une copie.
Fatigués.
Les violons, on dit les Stradivarius ou ce genre de choses.
Bon, y en a, mais d'époque. Mais alors le problème, c'est que toutes les cordes, violon, violoncelle, tout ça, ils ont traversé le 19e siècle sans encombre parce qu'on les a modifiés, on a changé les cordes, on a changé un petit peu quelques éléments du violon pour le rendre plus puissant. Mais il a continué d'être joué, il a été entretenu, il n'a pas été tellement transformé. Du coup, on peut remettre le violon comme il était à l'époque. On le remet en montage, on appelle ça montage baroque. Par contre, tout ce qui est flûte, hautbois, clarinette, trompette, tout ça, ces instruments-là, ils n'ont pas été joués parce qu'ils ont tellement changé qu'on ne s'en est plus servi du tout. Mmh. Et soit ils ont complètement disparu, soit ils sont vraiment en très mauvais état dans les musées. Du coup, là, on fait vraiment des copies.
D'accord.
Et pour les clavecins, c'est pareil. Je raconte une petite histoire très rapidement. C'est qu'au Conservatoire de Paris, au début des premières années du Conservatoire, vers 1790, par là, et les clavecins ont commencé à jouer du piano, ont commencé à oublier un peu le clavecin. Il y a eu un hiver un peu rigoureux, ils se sont chauffés avec les clavecins, ils ont tous cramé.
Ah ben voilà. Ouais. Ah oui, on ferait ça aujourd'hui.
Et parce qu'en fait, ça représentait aussi l'ancien régime, le clavecin. Oui. Donc, voilà.
Vendredi soir, donc 10 mars, hein, 20h30 à l'espace des Augustins, Enrico Gatti au violon. Et puis une causerie goûtée le samedi à 15h à la Petite Comédie. La musique baroque italienne, toujours encore avec Enrico Gatti.
Oui, j'ai souhaité l'inviter à Mais justement, à répondre aux... Quand je dis causerie, voilà, c'est pas une conférence, on n'y tient pas. On va juste discuter.
Comment on fait là?
Aimablement, voilà, exactement. Et tout le public est invité à venir poser des questions, vraiment ciblées sur la musique italienne, la technique du violon. S'il y a des gens qui aiment le violon, qui sont curieux de savoir comment se jouait le violon à l'époque, eh bien, ils auront sous les yeux un des plus grands spécialistes mondiaux du violon. Ça vaut le coup quand même de venir. Et plus un goûter après. Ça veut dire qu'on peut venir à la causerie, mais après, il y a un goûter.
Un tout petit peu, là, juste quelques mesures, là, comme ça, là, pour finir. Comme ça, on va parler sur... Qu'est-ce qu'on écoute, là? Qu'est-ce que c'est?
Ah, ben, c'est le cœur final de ce fameux motet, là, dont on a écouté le début. Là, c'est la fin. C'est le dernier cœur qui est un peu festif et justement qui est sur un rythme de menuet.
Mets-en un peu, là, pour voir. Voilà cette musique donc pour vous annoncer que le samedi 11 mars à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, Salve Regina des Scarlatti, Sabbat Mater de Pergolèse avec Magali Léger, soprano Paulin Bungen, alto et puis les passions sous votre direction, cher maître.
Et oui, l'apothéose de la fin du festival, samedi soir, 20h30 au théâtre, le fameux Stabat Mater de Pergolèse, une des plus belles œuvres du répertoire baroque, et en plus avec Magali Léger, qui est une superstar du chant baroque français, et Paulin Bungen, enfin, là c'est un concert extraordinaire auquel les gens sont invités.
Samedi soir donc, et puis ce sera la 5e journée européenne de la musique ancienne le mardi 21 mars.
Oui, là, c'est pas public, c'est pour les enfants.
Ah, d'accord.
On va faire deux séances scolaires qui seront, retransmises sur le site internet de l'Association européenne de musique ancienne, et ça sera diffusé sur le réseau européen de musiques anciennes pour la journée des musiques anciennes le 21 mars.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc Andrieux, d'être parlé.
Non, c'est moi qui vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, Rémi.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, vous écoutez CFM, le mag du Tarn-et-Garonne, c'est le soir à 17h et rediffusé le lendemain à midi.